Marie-Webb, Le précieux fléau, livre 3, chapitre 4, Genesis s'enfuit. Nous étions de nouveau à la veille de Noël, un an et 8 mois après que Kester fit cesser les combats de taureaux. Il n'y avait pas eu de lettre de la part de Genesis depuis longtemps, mais Gédéon ne s'en inquiéta pas. Il disait que cela provenait de la saison, et que les routes étaient si impraticables autour de chez les Grimbal que personne ne pouvait y aller par mauvais temps. Eux-mêmes ne venaient au marché que rarement en hiver, ayant déjà entreposé tout ce dont ils avaient besoin chez eux, car assez tôt, M. Grimbal envoyait une dizaine de charrettes de grains au moulin pour sa farine, et après cela, tous s'établissaient pour l'hiver, ceux de la ferme et les travailleurs dans les deux chaumières, de même que les chevaux dans les écuries, le bétail dans une pâture proche, et les moutons dans le champ de betteraves voisin, tous se calfeutraient en prévision de la mauvaise saison. Dans ces fermes-là, on avait l'habitude de se pourvoir en simple ou autre médecine, parce que ni l'apothicaire ni le docteur ne pourraient les secourir, tant les routes y devenaient mauvaises comme jamais.
« Route 6 ne peut pas y aller, » dit Gédéon.
Et Genesis peut rien envoyer à Lullingford. Mais dès qu'il y aura un peu de beau temps, nous aurons de ses nouvelles. Je pensais souvent à Genesis. Obligée de vivre avec Madame Grimbal, femme qu'elle ne pouvait supporter, tout comme moi d'ailleurs. Je me représentais ces montagnes si hautes et ces tempêtes de grésil comme un mur de glace entre elle et nous, et il me semblait entendre tomber cette neige épaisse et duveteuse dans un bruissement continu. À Sarne, on disait de la neige qu'elle s'infiltrait autour de la maison, s'infiltrait sans relâche et laissait un gant blanc sur la fenêtre. Il y avait à leur ferme 2 fils qui auraient pu égayer la monotonie des jours, mais l'un allait se marier avec la fille d'un ouvrier et l'autre était très versé dans la religion et ne s'intéressait à aucune sorte de jeu de mets ou de plaisir, ni même à rire ou à discuter. Si bien que Genesis n'avait que Madame Grimbal, qui régentait et houspillait sans cesse, et Monsieur Grimbal, qui était difficile par mauvais temps, à cause de ses rhumatismes. Je pris l'habitude de penser à Genesis longuement. Forcément, à Sarne, quand on pense à quelqu'un, ce ne peut être que longuement, puisque tout y est tellement tranquille, particulièrement en hiver où le temps semble s'arrêter. Et à chaque fois que je songeais à Genesis, je me la rappelais en ce jour de juin, quand nous eûmes un drôle de temps, cette grosse tempête glacée qui tourna à la neige en 1 heure. Et je revoyais nos roses sauvages si tendres et fragiles, habituées à rien de plus froid qu'une rosée, dont les pétales roses pâles furent ensevelis sous une neige épaisse, et ses fleurs furent gelées de part en part, jusqu'en leur cœur jaune d'or. Je ne pouvais imaginer Genesis quand ce jour-là, parce que je l'aimais bien et qu'elle m'était apparue frêle comme un enfant, même si elle était plus âgée que moi. En dépit du fait qu'en pensant à elle, je ne pouvais qu'avoir à l'esprit qu'elle était belle et moi laide, je l'aimais bien quand même, et cela d'autant plus qu'elle se trouvait dans une situation difficile. Car je n'ai jamais aimé aussi fort des gens à qui tout souriait. Aussi ai-je eu envie de lui envoyer quelque chose pour Noël, ne serait-ce qu'un mouchoir de fin lin ourlé. J'avais demandé à Gédéon de s'enquérir d'elle auprès de Kester, quand il alla au marché. Mais Kester était parti et la maison fermée. La nouvelle me fut pénible, car j'aimais me le représenter auprès du feu de sa cheminée dans la petite maison que je connaissais de vue. Il me semblait plus proche ainsi. Mais il avait pris l'habitude, l'hiver, de partir tout un mois, dans l'un ou l'autre village, pour y faire tout le tissage qui s'y trouvait, afin d'éviter d'avoir à faire des allers-retours. Une atmosphère tranquille régnait dans notre cuisine. Mère était au lit, étant toujours couchée maintenant, quand le temps était mauvais, et Gédéon se trouvait dans les bois pour nous couper la grosse bûche de Noël. Car, quelles que fussent les autres choses dont nous étions privés, de celles-là, nous ne le fûmes jamais, puisqu'elle ne demandait que du travail pour être acquise, et Gédéon ne rechignait jamais à la tâche, le pauvre. J'ouvris la porte pour savoir s'il avait fini, et j'entendis la hache frapper le tronc, et l'écho m'en parvenir par l'étang. Les arbres étaient enveloppés de neige, et l'étang était gelé presque jusqu'en son milieu. Les bois blancs, comme du sucre, entouraient l'eau, aussi figés que s'ils avaient été ensorcelés. Ils étaient si engoncés dans des bandes et des ballots de neige qu'on les aurait pris pour les personnages de quelque vieux conte de sorcières, surtout que pas un souffle d'air ne les remuait. Rien ne pouvait rappeler l'été. Rien ne laissait supposer que cet étang pouvait être plein de nénuphars, parcourus de jolies ondes. Je retenais mon souffle. Tout était profondément calme, jusqu'à ce que, à l'autre bord de l'étang, du côté de l'église, un chevalier gambette se mit à chanter quelques notes bien tristes qui semblaient dire « Silence, silence !» Puis un canard siffleur s'éleva dans le ciel sombre, et j'entendis mère tousser un peu. Je sus ainsi qu'elle désirerait bientôt son thé. Le bruit lâche cessa, Gédéon n'en aurait plus pour longtemps, et je me mis à préparer le repas. J'étais en train de faire du pain, ce qui me plaisait énormément. La plupart du temps, j'étais occupée à des travaux d'homme. Alors, après cela, confectionner du pain ou des gâteaux au four paraissait plus facile et plus agréable. J'aimais voir monter la pâte devant le grand feu rouge, puis préparer le four avec des braises, enlever ensuite la cendre et placer les miches en rang. Il était aussi tout à fait délicieux de se trouver dans la cuisine rougeoyante et chaude, remplie de la bonne odeur de pain, tandis qu'au dehors, les champs et les bois d'un blanc gris se trouvaient dans le froid et la solitude. Quel plaisir alors de tirer les rideaux, d'allumer la lumière, de mettre la table, de garder les galettes de pommes de terre au chaud sur la braise, de savoir que bientôt, tous ceux qui comptaient pour moi seraient installés douillettement pour la nuit. La volaille avait été enfermée à la tombée du soir, le bétail et les moutons avaient retrouvé leur enclos, Bendigo reçut sa litière, Poussy était près de l'âtre, Mère avait du feu dans sa chambre et une bouillotte dans son lit. Et maintenant, Gédéon allait revenir pour souper. Comme le four était encore chaud, je fis une fournée de tartelettes fourrées de fruits secs, parce que Gédéon aimait les petites gourmandises comme tout le monde. Même si parfois elle grommelait un peu et parlait de dépenses excessives qui priveraient la future maison de vaisselle en argent ou d'autre chose. Et quoique tout au long de l'année, je me conformais à ses désirs, en présentant des repas de pommes de terre, de pain et de fromage. En période de Noël, je faisais ce qui me convenait et nous avions des petites folies réconfortantes, un peu comme les autres gens. Et maintenant, après tout ce qui s'est passé depuis ce temps, c'est de cette petite désobéissance à Gédéon que je suis le plus heureuse, bien plus que de n'importe quoi d'autre qui ait pu exister alors. Parce que je peux dire, au moins, ceux-là, ils l'ont eu, quelles que soient les choses qu'ils n'ont pas pu avoir. Je chantonnais un peu et parlais à Poussy, qui était beaucoup trop confortablement installée pour se donner la peine de ronronner. Quand je lui disais quelque chose, elle tentait de se soulever un peu, de faire poliment le dos rond et d'ouvrir la bouche pour miauler. Mais alors, elle se sentait trop indolente pour faire sortir le moindre son. Cependant, elle me regardait comme pour me dire « Je sais bien, maîtresse, que tu as fait cet agréable feu rougeoyant pour que je sois bien au chaud et que tu m'as réservé quelque chose de bon dans le cellier. Et je te remercie beaucoup. » Soudain, il y eut un petit coup à la porte. Ce fut si ténu et si timide que ça aurait tout aussi bien pu être un rouge-gorge frappant de son bec. Et il y en avait un qui arrivait dans les moments de grand froid. Et si je mettais trop de temps à venir lui apporter un peu de nourriture, il me tapait sur le carreau. J'allais à la porte. Comme il faisait déjà sombre et que je n'attendais personne durant tout ce mois de fête, Je dois avouer que mon imagination évoqua les petits personnages effrayants qui pullulent dans les contes et toutes sortes de faits étranges dont on dit qu'ils se sont réellement passés autrefois. J'ouvris la porte. Là, face à la morne étendue blanche de l'étang gelé, tout abattu et pâle dans la lumière du feu, se trouvait Jensis. À peine l'avais-je tiré à l'intérieur, que chancelante, elle tomba comme un tas sur le sol. La pauvre fille. Je n'ai vu personne dans un tel état. Ses vêtements étaient tout déchirés, ses chaussures en lambeaux. Elle avait le visage et les mains écorchées, comme si elle était passée à travers des haies épineuses, ce qui, nous dira-t-elle plus tard, avait été le cas. Le tout gorgé d'eau, comme si on l'avait retiré de l'étang. Elle s'était évanouie et j'eus beaucoup de peine à lui faire reprendre ses esprits. Quand elle revint à elle, elle me dit qu'elle n'avait pas mangé depuis presque 2 jours et qu'elle n'avait fait que marcher depuis chez les Grimble. Par ce temps, pensez donc. Elle s'était enfuie, sans argent et sans chaussures décentes. Il lui avait fallu s'esquiver au moment opportun et le sort voulut que ce fut alors qu'elle n'avait pas même son châle. Elle ne cessait de sangloter. « Oh, je pouvais pas le supporter, Prou. Oh, ma chère Prou, me gronde pas. Personne n'aurait pu en supporter autant. Et quand est arrivée la période de Noël, et qu'il n'y avait pas de nouvelles, que était 10 fois plus pénible que d'habitude avec le mauvais temps, j'ai vraiment plus pu le supporter. » Et la fille de la chaumière me disait que les 2 précédentes filles de laiterie s'étaient sauvées. Pourquoi j'en faisais pas autant? Elle disait ça parce qu'elle était un peu désolée pour moi, mais aussi parce qu'Alf Grimble, qui est son fiancé, tournait autour de moi. Alors elle m'a dit quand ce serait le meilleur moment pour partir. Elle m'a donné du pain et de la viande et une bouteille de lait. Elle m'a promis de leur raconter une histoire pour qu'ils ne soient pas à ma poursuite. Elle s'arrêta pour reprendre son souffle. On entendit alors, dehors, le crissement de la charrette de Gédéon sur la neige. « Qu'est-ce que tu vas dire à Gédéon ?» lui demandai-je. « Oh, le laisse pas se mettre en colère contre moi, Prou. Le laisse pas. Je peux rien supporter de plus. Quand je t'aurai dit tout ce que j'ai subi, tu comprendras que je peux plus. » Gédéon avançait vers la porte, tirant la grosse bûche, symbole de Noël, avec une chaîne. Me renvoie pas, Prou, même s'il dit des choses affreuses, même s'il est très en colère contre moi parce que j'ai perdu la place qu'il m'a trouvée. Garde-moi au moins cette nuit, me renvoie pas. Alors je lui demandai si elle pensait vraiment qu'une quelconque créature pouvait m'obliger à pareille action à son égard, et par ce temps en plus. Et je l'enveloppai dans une couverture sur le banc, en lui disant qu'elle devait d'abord se reposer, puis prendre un peu de thé avant d'aller au lit, et toutes ses inquiétudes disparurent. Elle me sourit et me murmura « Je t'aime, Prou. Tu es comme le sauveur pour moi cette nuit. » Et elle s'endormit. Ayant vu tout ce qu'il advint par la suite, il m'arrive de temps en temps de me sentir merveilleusement contente de ce sourire et des mots qu'elle a chuchotés. Oh, quant à Gédéon, il devint fou de rage. « Quoi ? » commença-t-il dès la première minute. « Elle a tout perdu l'argent ? Et pas seulement celui pour l'année et les 4 mois qui sont pas faits, mais elle perd les gages de l'année et des 8 mois où elle a travaillé. » Quand on casse ce contrat, on reçoit rien. Tu sais ça comme moi. Je lui demandais comment il pouvait penser à l'argent alors qu'elle était venue jusqu'à notre porte dans un pareil état, ruisselante de boue et à demi morte. T'as toujours été folle, Prou, me dit-il, et je suppose que tu le resteras. Ma patience était à bout, et je dis nettement à Gédéon. « Je te serais redevable de tenir ta langue, au moins ce soir, Gédéon. C'est Noël. Et Jensis est venu vers toi, dans un épuisement proche de la mort, parce qu'il s'en est fallu de peu. Si elle avait perdu son chemin, une fois de plus, par cette nuit, c'en était fait d'elle. Et pense un peu que moi, je l'ai fait entrer, que je lui prête mon lit, que je la chouchoute pour toi, puisqu'elle est ta fiancée bien-aimée. Alors, pour le moins, tu devrais te radoucir et m'être reconnaissant, ainsi qu'à ceux qui ont sauvé cette pauvre enfant.
Sapristi, quel emportement, tout à coup, me dit-il.
Il se mit à rire, étant décontenancé, parce que je n'avais pas pour habitude d'éclater de cette façon. Alors il entra dans la cuisine de son pas lourd.
« Bon, s'écria-t-il d'une voix forte,
car il ne savait pas s'y prendre avec ceux qui souffraient, et il semblait penser qu'ils étaient sourds. Comme Mère n'allait pas bien, il se croyait obligé d'hurler quelque idiotie, bien que Mère gardât une ouïe parfaite.
« Bonsoir, Sarn, » dit Jensis d'une toute petite voix faible.
« Alors te voilà rentrée. »
« Oui. »
« Contrat cassé, tout ça. »
Elle se mit à fondre en larmes.
« Bon, alors pleure pas, » dit-il un peu ému. « Prouve à m'enguirlander si tu pleures. Je vois rien te dire. Pas ce soir. Il y a ben des choses que je dirai demain, mais je te laisse tranquille ce soir. » Alors, comment que tu vas ?
Il lui criait ça debout au beau milieu de la cuisine, et je ne pus m'empêcher de rire.
Très bien, merci beaucoup, Sarn, répondit-elle.
Tu dois pas t'attendre à tes gains de la part des Grimble. Je vais pas dire ça quand même. T'as vu le jeune Camperdine ?
Non.
T'as pris un ami par là-bas ?
Non, Sarn. C'est toi mon compagnon pour toujours.
Pas même Alf Grimble ?
Non, mais il était bien gentil avec moi, et il m'embarrassait. C'est pour ça que je me suis sauvée.
Je n'aurais jamais pensé que Jancis fût si fine. Il est vrai que toutes les femmes sont intelligentes quand elles sont amoureuses. Elle n'avait jamais paru aussi blanche que devant ce banc noir.
Je me suis sauvée parce que t'es le seul fiancé que je veux, Sarn.
C'était donc pour ça? Je vais lui briser la tête quand ils viendront marcher à bestiaux.
Oh, non, fais pas ça. Le fais pas.
Alors, tu t'es sauvé en faisant toutes ces dieux parce que t'aimais pas Alf et que moi, je suis le fiancé qui te plaît.
Oui.
Embrassons-nous, jeune fille.
À cet instant, je courus à la laiterie, prenant Poussy avec moi car elle craignait un peu Gédéon. J'écrémais et écrémais le lait, et si j'ai pleuré un peu, qui m'en voudra? Car moi aussi, j'aurais voulu être sur un banc et qu'un homme, criant après moi du milieu de la cuisine, vint ensuite me dire « Embrassons-nous, jeune fille ». Et si vous vous demandez quel genre de jeune homme j'aurais choisi, je vous dirais que c'en est un qui porte un manteau de la couleur d'une prairie en mai, qu'il vous regarde avec des yeux remplis de force et de sagesse, jusqu'à ce que votre âme en soit tourneboulée.
Je peux pas avoir ce que je veux, Poussy, dis-je, mais toi tu peux, parce que tes désirs sont faciles à satisfaire. Et je lui donnais toute une soucoupe de crème. Eh oui, je le fis. Qu'aurait dit Gédéon s'il l'avait su? Mais il en aurait aussi de la crème à la cuisine. Je te donne ça, Poussy, dis-je encore, parce que je peux pas avoir ma propre crème. Cela me fait plaisir de voir quelqu'un content. Elle me regarda à l'air inquiet, se disant qu'elle allait recevoir une petite tape bientôt, puisque c'était trop beau pour être vrai. Puis elle lapa toute la crème. Alors j'entendis Mère appeler. « Tu en as déjà eu, Poussy, dis-je. Et maintenant, Mère, aimerais-tu de la crème dans ton thé ?»«
Oh, pour sûr, ma chérie, j'aimerais volontiers une goutte de crème dans mon thé.
Mais qu'est-ce que va dire Sarn ?»«
Il est lui-même occupé à laper sa crème, Mère. »«
Quoi ?»
Mère pensait que je disais n'importe quoi. « Ben, d'une certaine façon, oui. »«
Jancis est là,
Jensis ?
Oui, elle s'est sauvée.
Oh, mon Dieu !
Elle a fait tout le chemin à pied.
Mais pourquoi est-elle pas allée chez elle ?
Je n'y avais pas pensé. Il m'avait semblé si normal qu'elle vienne chez nous, comme un rouge-gorge affamé.
Elle a eu peur de Begindi, assurément, mère.
Oui, oui.
Tu devras aller le dire à Madame Begildi.
J'irai demain à la Saint-Étienne. Laissons Jensi savoir son Noël.
Ils sont là, comme tu as dit, en amoureux?
Oui.
Il a été épris par surprise. Et il lui a donné un baiser avant de s'en rendre compte.
Nous nous mîmes à rire un peu.
Et maintenant ton thé, mère.
Que tu te sentes dans la joie de Noël. De la crème à volonté.
Et après le souper, je décorerai la maison avec du houx. Pense à prendre de la crème pour toi, ma chérie.
Comme je descendais les escaliers pour aller à la cuisine, où se trouvaient nos deux amoureux assis à l'ancienne mode sur le banc, je me demandais ce qui serait ma crème à moi. En chauffant l'eau pour le thé, je le sus tout de suite.
Jensis, dis-je, tu devrais écrire à Monsieur Woodsies et lui parler de ta fuite.
Sinon, il pourrait peut-être un jour faire un détour par là-bas pour écrire une lettre pour toi.
Oui, d'accord, Prue. Vu que c'est toi qui écris, ça me gêne pas. Mais je voudrais pas retourner là-bas.
Ah bon? Et pourquoi?
Je te dirai tout ça demain. Je suis tellement fatiguée.
Très bien, répondis-je, alors que j'avais hâte d'en savoir plus sur lui.
Ce soir, je veux bien parler de mon évasion, dit-elle.
Mais je lui dis de prendre d'abord son souper.
Mange un peu et bois. Après, tu nous diras tout, et puis j'écrirai.
Je savais que cela lui ferait du bien d'en parler, parce que, quand vous êtes passé par de grandes souffrances, en parler, c'est comme retirer l'épine de la plaie. Alors, elle nous raconta qu'elle avait projeté d'aller à Lullingford le jour de marché pour demander à Gédéon de la ramener. Mais elle s'était trompée de route dans ces collines qui se ressemblaient toutes sous la neige, et elle s'était égarée très loin de son chemin, se retrouvant la nuit encore dehors. Alors elle avait dormi dans une hutte faite d'ajoncs, construite là pour la période d'agnelage. Sous la porte, elle avait entendu une grosse respiration et avait pensé que c'était le grondement du taureau de Bagbury. Mais elle avait crié trois fois une prière à la Trinité aussi fort qu'elle avait pu, et le taureau était parti. Ensuite, elle s'était débattue dans cette neige, marchant à travers champs sans pouvoir trouver son chemin pour le Lingford. Un cheval l'avait poursuivi, et ce fut pire que le grondement du taureau de Bagbury, et c'était là qu'elle avait rampé sous la haie. Quand enfin elle arriva à Lullingford, Gédéon était déjà parti. C'est vrai qu'il rentrait aussitôt qu'il le pouvait. Elle alla chez Kester, mais comme il n'était pas chez lui, elle fut une fois encore privée de secours. Elle craignit d'en demander à quelqu'un d'autre, parce qu'on aurait pu la renvoyer chez Grimble. Aussi se pressa-t-elle de repartir. Mais avant même d'avoir pu parcourir quelques lieues, elle se sentit très faible et rampa jusqu'à une grange pour y passer la nuit. Le lendemain matin, une fois dans les bois, elle crut se souvenir d'un raccourci, mais se perdit de nouveau. Et vraiment, il n'y avait rien d'étonnant à cela, car même en été, il n'était pas facile de retrouver son chemin dans les bois aux alentours de Sarnes.
Sapristi, dit Gédéon, apparemment. T'as bien besoin d'un gars pour s'occuper de toi. J'ai jamais entendu un tel tissu de sottise.
Et que va donc dire père, poursuivit Jensis. Il va pas m'aider, il est très têtu. Et si on va contre ses idées, il devient hargneux. Si mère est au courant, elle peut peut-être me sortir de là.
Je vais voir ta mère dès la Saint-Étienne, dis-je.
Ce serait bien étonnant de pas trouver une astuce pour se dépatouiller avec ton enquiquineur de père, si tu m'en veux pas de parler de cette façon.
Ça me gêne pas. Tu peux dire pire que ça sur mon père, et je serais bien capable d'en penser pire encore. C'est ben vrai qu'il est enquiquineur, lettré ou pas.
T'inquiète pas pour le moment. On trouvera quelque chose pour te donner le temps de te retourner. Peut-être que tu peux chercher une autre place. Ou peut-être que Gédéon...
Si tu veux dire que Gédéon va peut-être se marier, J'en ai déjà parlé, me coupa Gédéon. Ce sera quand je le voudrai, et pas avant. J'ai déjà dit à Jancis que si on a une bonne récolte et que tout marche, je veux pas me marier après la moisson. Et elle est d'accord.
Ah, j'en suis heureuse, dis-je. On n'aime jamais assez tôt. Et si t'es fou d'une fille, tu dois la vouloir chez toi, près du feu et de la table, à la maison et dehors. Et c'était à une maison à quelques lieues à peine de là que je pensais. Une maison aussi différente que possible de la nôtre, où se trouvait un célibataire endurci, qui ne voulait pas de femme, et qui naissait seul, Proussarne.
Je me dis qu'il était temps d'écrire la lettre.
Qu'est-ce que tu veux que j'écrive dans ta lettre, Jancis?
Elle me répondit que je pouvais mettre ce que je voulais. Je pris donc du papier, de l'encre, ma plume, et me mis à écrire.
Veille de Noël, Sarne, cher Monsieur Woodsies. Je vous écris pour vous prévenir que j'ai quitté Madame Grimble, qui était très avare sur la nourriture et toujours à me commander. Le maître avec ses rhumatismes était difficile quand le temps venait à être rude, et les fils aussi étaient pénibles, chacun à leur manière. J'ai fini par arriver à Sarne. Je peux déjà dire que Gédéon et moi allons nous marier après la moisson. J'en suis très contente, parce que, quand on aime vraiment quelqu'un, on a envie d'être auprès de lui, et la nuit on ne peut pas se reposer, parce qu'on se demande s'il va bien, s'il a bien changé ses chaussettes quand elles sont humides, ou s'il ne se sent pas trop seul. C'est encore lui que je choisirais, plutôt que n'importe qui d'autre dans les contrées voisines. Il est si gentil et si courageux, et quand il sera avec moi, je pourrai dire « Le maître est là ». Je l'aime plus qu'on ne peut le dire, et cela pour toujours. Et donc, bonne nuit, Monsieur Woodsheaves, et joyeux Noël de la part de Jancis Begildy.
Tu as écrit une mignonne petite lettre, Jancis, lui dis-je. Veux-tu que je te la lise?
Oh, que non! Pourquoi faire? Tu sais bien ce qu'il faut dire.
Oui, je savais bien ce qu'il fallait dire, pensais-je. Seulement, je ne le pouvais pas. Là était le problème.
Je fermai bien la lettre et la plaçai toute prête sur le dessus de cheminée, pour que Gédéon pense à la prendre à son prochain jour de marché. Nous avons vécu quelque chose d'étrange ce Noël-là. Ce fut le meilleur que nous ayons jamais eu, et il y eut plus de chants et de rires que durant les autres Noëls. Et pourtant, d'une certaine façon, il fut en même temps bien triste aussi. Il me semblait que les chants provenaient de très loin, des profondeurs de l'eau. Et quand Jancis se trouvait assise près de la fenêtre, et que la lumière, filtrant les fonds de bouteilles verdâtres, tombait sur sa belle chevelure dorée et sur son visage pâle, cela me donnait l'impression de la voir engloutie sous des flots. Gravier vert, l'herbe est si verte. Ô la plus belle fille jamais vue encore, quand du lait je te baigne et de soie te vête, puis j'écrirai ton joli nom à l'encre d'or. Oui, j'entends maintenant encore Jancis chanter ce chant de sa jolie voix au perché qui semblait venir de très loin. Oui, venir de très loin. Mère me laissa la lever le matin de Noël et elle vint s'asseoir douillettement au coin de la cheminée. Elle regardait les amoureux d'un air attendri, compréhensif et joyeux, comme je l'ai souvent observé chez de vieilles dames qui avaient déjà vécu leur vie et avaient connu l'amour. C'était comme si elle disait à ses jeunes amoureux « Te voilà content, mon garçon. Bientôt tu le seras encore plus. » Et toi, ma fille pleine de jolies choses à gazouiller, eh bien, je peux te le dire, il y en aura plus encore après, bien plus.
Je vis particulièrement cela quand tous les trois nous chantâmes, quand Joseph partit, et, chrétien, réjouissez-vous.
Mère semblait écouter d'autres voix aussi, de petites voix comme celles des enfants câlards, toutes au perché délicieuses. Elle voyait d'autres visages,
tout barbouillé et rose, levé vers elle, tandis qu'elle était assise sur le banc dans l'obscurité, prêts à sourire à peine les chants de Noël terminés en criant « Mamie !» Elle ne cessait de tapoter Jensis à l'épaule, lui disant « Jolie fille, ah, si jolie !» Et je l'ai entendue une fois prévenir Jensis à propos des lièvres. « Quand ton temps viendra, ma chère petite, va pas trop dans les bois, ni même dans les prairies. Reste près de la maison et t'en rencontreras pas. Ce serait un grand malheur, oui, un grand malheur. »
« Oh, madame Sarne, disait Jensis riante et rougissant un peu, vous allez bien vite, nous n'en sommes qu'à nous courtiser.
Ah, c'est que c'est le temps qui va vite, ma chère petite. Il ne faut pas laisser pousser la mousse sur l'allée de l'amour. Ne dis pas trop souvent non. C'est un bon gars quand on le contrarie pas. »
Mais c'est plutôt Sarne qui veut attendre, pas moi, répondit Jensis.
Le grand fou, le grand fou. Qu'importe la vaisselle en argent? Qu'a-t-on besoin de servantes et de serviteurs? Je suis très bien sans. Je veux juste plus avoir à m'occuper des cochons, garder les pieds près du feu et pouvoir prendre une tasse de thé.
Sarne veut m'emmener au bal des chasseurs, dit Jensis. Et j'y serai avant Miss Dorabella.
Voilà une mauvaise pensée. Quelle importance y a-t-il à être le premier à entrer dès l'instant où on peut tous y être? Et pourquoi ce bal plus qu'un autre?
Mais ça me plairait beaucoup d'entrer avant Miss Dorabella.
Et c'est ce qui arrivera, dit Gédéon depuis la porte, tout en secouant la neige et la boue de ses bottes. Et tu seras habillée comme une grande dame, avec un décolleté, et il n'y aura pas de honte à ça. » Et il traversa la cuisine avec une branche de gui qu'il avait cueillie en grimpant sur le gros pommier et qu'il plaça au-dessus de la tête de Jensis en lui donnant un beau baiser sonore. Mère applaudit, heureuse comme un enfant quand des chatons se réveillent pour jouer. Mais même quand elle applaudissait de joie, ses mains ressemblaient aux petites pattes suppliantes d'une taupe prise au piège.
« Pas plus tard qu'à la moisson, Sarne, » plaida-t-elle. « Faut pas plus tard. Je tiendrai jusque-là pour sûr, mais après, avec l'hiver qui viendra, qui sait? J'aimerais te voir mariée avant l'hiver. »
« Oh, on reportera pas, mère. Pas de danger. Y aura pas besoin, car je serai déjà riche avec le blé vendu. Et le mariage coûtera pas cher. On pourra avoir une charrette le jour de l'entraide que je paierai avec de l'ouvrage en hiver. Et dans 2 ou 3 ans, on pourra déménager, parce que le vieux de Luningford, on n'a pas pour longtemps, et que l'argent sera prêt quand la maison sera en vente. »
Ainsi, ils étaient tous dans la joie, et quand je dis « le thé est servi », Gédéon me fit une petite tape affectueuse sur l'épaule en me disant que j'étais une bonne fille.
« Une vraie bonne fille, comme il y en a peu. Maintenant allons-y, allons tous à table, car j'ai une faim de loup. »
Mais moi, je n'étais pas aussi joyeuse qu'ils n'étaient. Je me sentais loin d'eux tous. Cependant, je me réconfortais un peu, de temps à autre, car tout en coupant le pain, faisant frire le lard et versant le thé, je jetais un œil à ma lettre, sur le manteau de la cheminée. Puis Jensis nous conta l'histoire de Kester, et ce qui était arrivé à propos du dépit de Grimble et qu'on ne pouvait écrire dans les lettres. Il semblait donc que Grimble et Huglet détestèrent Kester dès le moment où il arrêta les combats. Et cette détestation grandit assez vite pour devenir une haine noire. Ils tentèrent de mettre les autres fermiers contre lui, en disant certaines choses pour lui nuire. Ils parlèrent de mauvais tissage, alors qu'il faisait le meilleur travail de tout le comté. On disait qu'il était lent et cher. Non content de cela, ils se renseignèrent sur ses convictions religieuses et ses idées à propos des lois sur le blé et des hommes du Parlement. Ils s'entendirent avec le châtelain sur ces choses-là, parce qu'ils n'évoquèrent jamais le combat, mais seulement le blé. Chaque fois qu'ils le pouvaient, ils parlaient contre Kester.
et ils étaient bien contrariés de ne pouvoir lui reprocher d'être ivre, de fréquenter des femmes ou de faire quelque autre chose susceptible d'intéresser le gendarme de la paroisse. Cependant, ils firent tout ce qu'ils purent pour faire de sa vie un enfer, tant ils étaient furieux de se voir privés de combat durant 10 ans. Or, un jour où Kester était venu tisser pour les Grimble, voilà que M. Grimble vint, le soir, regarder le tissu fait dans la journée. Et il ne put trouver rien à redire, ni sur la qualité, ni sur la quantité, parce que le travail était parfait. Et Jancis dit même que l'ouvrage avait la finesse de la soie sans le moindre défaut, et pas un seul nœud. Grimble ne fit aucun commentaire à Kester, mais, après le souper, Jancis alla chercher du papier et tous deux se mirent à écrire une lettre pour Gédéon. Et apparemment, M. Grimble ne put le supporter, car ne sachant ni lire ni écrire, il se sentit inférieur à Kester. Aussi, quand il ne put se retenir plus longtemps et qu'il éclata de colère, voici ce qu'il dit.
« Si le jeune Sarn aime la nourriture déjà touchée, il aura ce qu'il veut. Et je doute qu'il te remercie, Tisserand. Je dois dire que vous semblez bien assortis ensemble, toi et la fiancée de Sarn. C'est du linge de bébé que tu ferais mieux de tisser, Woodsheaves. »
Alors Kester attrapa son chapeau et toutes ses affaires avec colère, sans rien dire. Et une fois à la porte, il se retourna et lança.
« Prends le beau frère de Huglet pour ton tissage dorénavant. Je ne tisserai plus pour toi. Tu n'es qu'un crapaud grossier et le déshonneur de ta paroisse, qui se situe en enfer. »
Il claqua la porte et ne revint plus dans les parages. J'ai envie de monter dans le grenier pour réfléchir à tout cela. J'aimais encore plus fort Kester pour sa colère. J'aurais bien aimé le voir en colère, mais pas contre moi, sinon j'aurais pu en mourir. À la Saint-Étienne, je partis pour la maison de Pierre, et ce fut avec des pas chancelants, car la neige s'était amoncelée en grande quantité sur le chemin dans le bois. Mais il faisait beau, une grive chantait, et sur toutes les aubépines brillaient les perles de coucou, nom que l'on donne à leurs fruits rouges. Béguidi était sorti pour un de ses sortilèges. Madame Béguidi et moi eûmes une bonne conversation. « Eh bien, quel pauvre petit agneau, dit-elle, penser qu'elle ne peut pas même venir auprès de sa propre mère à cause de cette tête de mule de maître. Piètre homme, que faire ? Retourner chez Grimble, c'est pas possible. Mais ici, le père va gronder comme un fou quand il saura que tout l'argent est perdu. Garde-la encore un peu, le temps que le gros de la tempête soit passé, Gerpro. Oh, elle est la bienvenue et peut rester autant qu'elle le voudra. Que le ciel te récompense, me dit-elle, car elle avait de la religion et prenait les façons d'église. Et quoique je n'ai pas envie de dire du mal d'elle, cependant je pense que dans une certaine mesure, au moins, elle voulait être chrétienne pour contrarier Béguidi. Mais peut-être s'agit-il là d'une mauvaise pensée de ma part. Gédéon nous a dit que la fille louée chez les Calards s'était sauvée avant l'hiver, dis-je. La mère se trouve seule toute la journée avec les 5 enfants et le bébé. Qui sait, en s'y prenant bien, on trouvera grâce à leurs yeux et ils paieront la même somme que les Grimble. Parce que tout le monde est déjà loué jusqu'en mai, et de plus, le vallon des Calards n'est pas un endroit qui plaît aux filles. « Vous irez voir Madame Calard pendant que je passerai prendre une leçon pour que le maître soit occupé. »« Mais tu as cessé de venir prendre des leçons parce que tu en sais autant que Béguidi. »« Oui, mais bon, il y a bien autre chose que j'aimerais apprendre, et je ne sais si c'est dans les livres. »«
Qu'est-ce que c'est ?»« C'est un vieux charme séculaire, Madame Béguidi, et qu'on nomme le bonheur. »«
Oh, ça, tu ne trouveras dans aucun de ces livres. »
Ni dans aucun autre, dis-je. Pourtant, je crois qu'il y a quelqu'un qui en sait quelque chose. Qu'il plaise à Dieu, qu'il me l'enseigne. Mais il ne le voudra jamais.
Oh, je crois que si j'y vais, ce sera d'aucune utilité, Prou, me dit-elle. Ils lâcheront les chiens sur moi, c'est probable. Calard est très pieux, tu penses, et il ne peut pas nous supporter. Et tout ce que lui pense, elle le pense aussi.
Tout ce qu'il dit, elle le dit, comme l'écho qu'on entend à Sarnes.
Il faut se rendre à l'évidence qu'ils ne prendront pas Genesis étant donné ce qu'est son père.
Mais il se peut que si c'est toi qui y vas, et que tranquillement tu leur dises que Genesis est la fiancée de Sarnes, ils réfléchiront à deux fois, car l'on parle déjà de ton frère en bien, comme d'un homme susceptible de devenir riche.
Alors je répondis que j'irais. Je n'avais pas trop envie d'y aller, sachant qu'on me regardait un peu de travers, moi aussi, et qu'on disait du mal de moi de temps à autre.
Mais le soir venu, quand je vis Gédéon et Genesis si joyeux et si bien ensemble, jouant à un jeu de cartes au coin du feu, je savais qu'il fallait que j'y aille.
« Tiens, Gédéon, ai-je dit, je vois que t'es bien occupé. Maintenant que t'es trop âgé pour jouer au conquérant avec des coques de noix ou des coquilles d'escargot, tu gagnes quand même à un jeu. »«
Le conquérant, dit Mère depuis son coin. Ah, quel jeu! Il en était fou de ce jeu. Il aimait jouer avec des coquilles roses et blanches qui venaient des escargots romains. C'est comme ça qu'il s'appelait, n'est-ce pas, Prou ?
C'était ceux que tu allais chercher la nuit où mon pauvre Sarne mourut dans ses bottes, pauvre âme.
Elle se mit à pleurer un peu et parut minuscule, ce qui arrivait chaque fois qu'elle était malheureuse.
Allons, allons, mère, ne t'inquiète pas, il est en paix maintenant.
Oui, pauvre âme. Et Sarne a pris le péché, mon fils Sarne.
Il l'a bien mâché. Et je vois qu'il y aura des gars pour jouer au conquérant dans notre cuisine avec les coquilles roses et blanches. »
Elle dirigea ses regards vers le banc. Gédéon venait juste de remporter une victoire sur Genesis, et il était de bonne humeur.
« Oui, des garçons et des filles, dit Mère, car je vois bien qu'il lui demandera plus que des cartes. »
Elle se mit à rire à la pensée des petits-enfants et au jeu de mots qu'elle avait fait. Mais elle rit tant qu'elle finit par s'étouffer et que je dus la calmer, la maîtronie. Le lendemain, je fis route pour le vallon des Calards. C'était un trajet qu'on ne choisissait pas volontairement par cette épaisse couche de neige, car le chemin courait sur de hautes pâtures désolées par des pentes exposées au nord, où se concentrait un froid âpre. Mais voyant que je me trouvais dans la bonne direction, je me mis à chanter à haute voix le long des prés nus, alors que personne ne pouvait m'entendre. Porte, élevez vos linteaux. Ensuite, tout près de la ferme, dans un petit champ clos, que vis-je, broutant sous un bois de pin sombre, sinon le taureau blanc, que Kester avait sauvé des crocs des chiens. Je m'arrêtai pour le regarder un peu. Il était là, bien vivant, pas même estropié, dans son blanc manteau, sans trace de morsure, paraissant aussi content qu'en paradis, et tout cela grâce à Kester. Kester avait tenu sa promesse, avait donné l'argent et rendu le taureau à Calard pour ses enfants. « Si vous pensez, lui avait-il dit, que le combat de taureau est détestable, j'espère que vous le leur direz, mais pas contre votre conscience. Mais voilà. » Calard étant un très honnête homme, et soit qu'il se sentît obligé de faire quelque chose en retour, soit non, toujours est-il qu'il considéra l'affaire avec sérieux. Genesis nous dit, après coup, qu'il était très amusant le soir de le voir réunir les enfants autour de l'âtre, assis sur leur petit tabouret, le bébé sur les genoux de sa mère, et lui qui disait d'une voix forte « Le combat de taureau est détestable. » Et sa femme, avec la voix mélancolique qui est la sienne, répétait comme l'écho de Sarne, détestable. Alors tous les enfants chantaient, comme une nichée d'oiseaux. Le combat de taureau est détestable. Et parfois le bébé gazouillait quelque chose, tandis que d'autres fois il restait tranquille, comme s'il réfléchissait. Il n'y avait qu'une voix qui était en désaccord, c'était celle de grand-père Calard, criarde et chevrotante, qui disait « Non, non, c'est pas détestable. C'est un bon vieux sport amusant. » Mais personne ne l'écoutait, car il commençait à perdre la tête. Ce fut lui qui m'ouvrit la porte. Il appela sa belle-fille.
« Il y a une grande jeune fille, Maria, la sorcière. »«
Faites-la rentrer, beau-père. »«
Entrez, me dit-il,
Elle descendra quand le bébé s'arrêtera de brailler. J'aimerais bien avoir les poumons qu'il a. Je vais pas trop bien, pas bien du tout même. Vous savez soigner ?
Je lui dis que non.
Oh ! Oh, je pensais que Begidi vous avait appris. Un grand pécheur cet homme, pas vrai ? Enfoui dans son péché comme un mouton dans sa laine.
Ça vaut pas la peine qu'il frappe à la porte du paradis en disant « Lave-moi, je serai plus blanc que neige. » Parce que je te dis, aucun juge pourra le nettoyer, même en y mettant le temps.
Oui, ce sorcier est un vieil homme méchant. Je crois qu'il vit en suçant la vie des autres au milieu de la nuit.
Oui, il suce leur sang pour sûr. On l'a vu au cimetière déterrer les morts pour voler leurs os et les broyer pour ses sorts. On l'a vu ramener des petits-enfants à la maison pour les manger. Oh, c'est le plus méchant homme depuis Ponce Pilate.
C'est là que l'aîné des enfants gémit de frayeur et que Madame Calard appela du haut de l'escalier. « Beau-père, qu'est-ce que vous racontez là ? Arrêtez tout ce bruit !» C'est alors qu'entra M. Calard qui me dit que je pourrais aussi bien participer au repas, vu qu'il était l'heure du thé. Quand nous eûmes fini, je leur parlais de Chances.
« Alors elle s'est sauvée, » dit M. Calard. « Et par ce temps, eh bien, voilà qui est fort. »«
Fort, » répéta sa femme.
« Le contrat est cassé, » dit M. Calard.
« Cassé, » répéta sa femme tristement.
« Personne cassait son contrat quand j'étais jeune, » dit le vieil homme. « Ils auraient pas osé, on les aurait mis au pilori. »
« Et vous êtes sûr que ça n'a pas un rapport avec le tisserand ?»«
Tisserand ?» répéta gravement Madame Calard.
« Tisserand ? Tisserand ?» crièrent les enfants.
Et il me semblait qu'ils aimaient beaucoup ce nom.
« J'en suis aussi sûr que je respire, » répondis-je.
« Et elle est promise à votre frère ?»«
Oui, ils vont se marier après la moisson. »
« Ben, » dit Monsieur Calard, « Madame la prendra à l'essai. »
« À l'essai ?» fit Madame Calard en écho d'un air navré, comme si elle doutait des capacités de Jensis. Ils convinrent de prendre Jensis pendant 6 mois et de lui donner 3 livres, ce qui était une forte somme pour eux. Je rentrai donc de bonne humeur. Le lendemain, Gédéon dit que nous pouvions avoir Bendigo. Aussi conduisis-je Jensis chez les Calard, nous arrêtant en chemin chez les Begindi, pour donner la nouvelle au vieil homme. Oh, pauvre de moi! Il fut dans une irritation extrême. Et le pire de tout fut qu'il mit toute la faute sur Gédéon, qui n'y était pour rien du tout.
« J'en veux à ton frère pour ça, me dit-il.
Oui, un homme pénible, tout comme son père. Je pouvais pas prévoir ou faire quelque chose sans qu'il arrive m'agacer. Et le jeune tsar n'est pareil. Regarde la façon qu'il m'a joué à propos du jeune châtelain.
Mais Madame Begidi était ravie.
« Et tu pourras revenir à la fin de la fenaison, Chances, dit-elle, pour faire ta robe de mariée.
Et le mariage se fera à la Saint-Michel. Les roses glorées seront à leur période de seconde floraison. Et tu pourras en avoir pour ton bouquet de mariée. »
« Je t'ai déjà dit, » commença Begidi, « que Sarne ne la prendra pas pour femme. Tu pourras lui dire de ma part, Proussarne. Je ne serai pas déjouée. Je l'ai maudit par le feu et par l'eau. Et... maudit le restera. Dis-lui qu'avec ou sans l'anneau, il la prendra pas pour femme.
Bon, au revoir, monsieur Begidi, dis-je, car je pensais qu'il était temps de continuer notre route.
Prou, commença Jensis, tandis que nous roulions à travers la lande entre Plache et le vallon des Calards. Pourquoi as-tu planté le couteau dans le chien de Grimble et fais ce que tu as fait pour le tisserand? Elle leva la tête vers moi avec ses grands yeux bleus, et je frappai rudement Bendigo pour être occupé à quelque chose. Le pauvre vieux canasson eut un regard inquiet, et ma conscience me titilla, mais que pouvais-je faire d'autre?
Les gens disent que c'était pas ordinaire pour une fille de faire ça pour un étranger.
Ou même aussi loin qu'autour de chez les Grimble, les gens savent que c'est toi. Bien que ni Grimble ni sa femme n'en ont soufflé mot, vu qu'ils n'aiment pas en parler, ayant été humiliés par l'affaire.
Pourtant, tout le monde le sait dans tout le pays. Elle continuait de me regarder.
et je sentis le rouge me monter aux joues, brûlant comme du feu. Je rouai de coups Bendigo, et nous allions sur les monticules et les parties marécageuses à une vitesse jamais vue. Jensis eut un petit rire perspicace et agaçant. « Le pauvre vieux Bendigo n'en peut plus, hein ?» dit-elle.
« Je voudrais arriver au plus vite, » répondis-je sottement.
« Oh, pas de doute, tu y arriveras, » me dit-elle. Puis elle se tint tranquille un moment, bien qu'elle m'observât sans relâche. « Je me demande, » reprit-elle au bout de quelques instants, « ce que le tisserand en penserait s'il le savait. »
« Il ne peut pas le savoir, » répondis-je. « Il était évanoui. »
« Il a pu en entendre parler. Oui, je me demande ce qu'il penserait si la chose venait à ses oreilles. De cette proussarde qui s'est battue pour lui comme un tigre. »
« Il n'en penserait rien. Tout le monde sait que j'ai pitié des gens faibles. Oui, mais il n'est pas ce qu'on pourrait appeler un faible, ce monsieur Woodseeves.
C'est le meilleur lutteur de la contrée, et un homme plutôt viril.
Oui, mais avec la gorge entre les crocs du Toby de Grimble. Il était faible, pas vrai?
Oui, mais pourquoi est-ce que c'est Proussarne qui l'a sauvé?
Et pourquoi lui a-t-elle pris la tête entre son sein si tendrement et tout?
C'est vrai qu'il a de très beaux cheveux noirs et soyeux.
J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir quand il écrivait des lettres pour moi.
Et Félina le pense aussi.
Elle le tourmente joliment les jours de marché.
Comme elle est ardente, cette femme, dis-je.
Et qu'est-ce qu'elle fait alors?
J'étais contente de mettre Jency sur un autre sujet.
Oh, elle va à sa maison, y laisse un grand panier de champignons, ou une coupe de myrtille, ou même un morceau de viande de mouton, si le berger en a tué un. Et si elle vient le rencontrer dans la rue, elle le regarde de ses beaux yeux verts et lui envoie un sourire aussi exquis qu'une noix d'octobre. Et une nuit, quand le berger avait trop bu pour qu'il puisse repartir assez tôt chez eux, qu'est-ce qu'elle a fait, sinon? Aller dans l'obscurité chanter une chanson étrange sous sa fenêtre.
Qu'est-ce qu'elle a chanté?
Eh bien, elle a chanté « Une pauvre vierge à la clarté de la lune s'en était allée quémander un gâteau. Un gâteau pour votre âme. Oh, qu'on me le donne gentiment, je suis affamée. Un gâteau pour votre âme. Un gâteau pour votre âme. » Un jeune homme de sa fenêtre éclairée regardait et vit en cette nuit noire la jeune fille qui pleurait. « Et que me donneras-tu pour ce gâteau de l'âme, toute belle ?»«
mon corps, pour un gâteau de l'âme, » répondit-elle.
« Et je dis moi que c'est une chanson bien effrontée, tu trouves pas, Prou ?»«
Et lui, qu'est-ce qu'il en pense ?»
Je ne me permettrai pas de lui demander. Mais cette Félina est une femme qui se contrôle pas. Elle va finir par le tenter et le faire tomber, si personne ne l'éloigne de lui.
Je me demande bien ce que je dirais au tisserand s'il me demandait pourquoi tu étais si ardente à le sauver.
Dis rien. Rien, c'est pas une réponse. C'est tout ce qu'il aura.
Et la façon que t'as eue de menacer avec ton grand couteau, comme un des anges qui protège le jardin de l'Éden.
Ça te regarde pas ce que je fais?
Si, ça me regarde.
Et pourquoi donc?
Parce que je t'aime, Prou.
Ouf, merci à la Providence, nous voilà arrivés chez les Calards, dis-je, alors que nous rentrions dans la cour. La porte de la maison s'ouvrit brusquement, et, comme les abeilles d'une ruche, les cinq enfants en sortirent, ainsi que le grand-père Calard et Madame Calard avec le bébé. La dernière chose que me dit Jensis, avant que je reprenne le chemin du retour, fut « Il va falloir que j'envoie chercher le tisserand bientôt. »«
Et pourquoi faire ?» lui demandai-je.
« Pour qu'il écrive, pour moi, une lettre pour Sarne. »«
Mais pourquoi? Tu es qu'à 2 ou 3 lieues de Gédéon maintenant. Pourquoi vouloir lui écrire une lettre ?»
« Ça te regarde pas, ce que je fais ?»
me répondit-elle très mutine, et s'amusant elle-même.
« C'est bien ce que tu m'as dit, Proussarne, non ?